RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant, c'est un immense plaisir de vous retrouver entre 13h et 14h pour parler de sport mécanique. Vous le savez, oui, il y a du football, il y a du vélo, mais il y a aussi des sports mécaniques et notamment de la Formule 1. On va en parler dans un instant avec Adrien Tambay et avec Lucas Vinoy. Nous sommes naturellement dans le Tour de Chauffe.
RMC Motors, le Tour de Chauffe.
Et voilà ce Tour de Chauffe que l'on aborde toujours à haute vitesse, hein, finalement, avec Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis avec Lucas Vinoy, et quand je dis Tour de Chauffe, je crois qu'il fait toujours très chaud du côté de Silverstone. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, salut Adrien, salut à tous. Oui, en effet, il fait très chaud ici à Silverstone. Surtout, on en parlera avec cette piste resurfacée qui est extrêmement brûlante et qui va jouer bien des tours aux pilotes cet après-midi.
Effectivement, alors on sait que il l'a fait, ça y est, le Britannique Lewis Hamilton a signé sa 50e pole position avec Mercedes, qui est évidemment un exploit, et puis on sait qu'il est peut-être en mesure, en tout cas il va tout faire pour essayer de totaliser un 6e succès. Il faut dire qu'il l'a déjà emporté sur ce tracé en 2008, c'était son arrivée en Formule 1, puis après 2014, 2015, 2016, 2017, Vettel lui s'était imposé donc en 2009, il y avait Raikkonen également en 2007, et puis Fernando Alonso, et on le dit à chaque fois, avec Fernando, ça remonte à déjà pas mal de temps. Voilà pour les vainqueurs. Alors Lucas, on vient de l'évoquer rapidement en termes de température, en termes de resurfaçage, tu l'as dit, sur cette piste qui est censée être plus rapide, pourtant les pilotes la trouvent énormément bosselée. Comment est-ce possible ?
Elle a été resurfacée, mais elle n'a pas été lissée en fait. On a conservé les bosses ici. Alors il y a eu plusieurs pilotes qui s'en sont plaints, notamment Lewis Hamilton. D'autres qui trouvent que voilà, il faut composer avec cet élément-là. Mais c'est vrai qu'on a vu notamment la Mercedes taper énormément, hein, notamment à l'entrée de certains virages. Mais bon, Lewis Hamilton s'est plaint, mais ça ne l'a pas empêché de réaliser la pole position.
Et oui, de réaliser cette fabuleuse pole position, établissant évidemment un nouveau record de la piste avec, on le soulignait Adrien, 44 millièmes d'avance sur son adversaire direct Vettel. 44, c'est le numéro de sa monoplace, faut-il y voir un signe?
Je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que Ferrari a fait du bon boulot par rapport au dernier Grand Prix en qualification pour se rapprocher un peu plus de la Mercedes qui, il est vrai, on l'a vu, hein, bouger beaucoup en mouvement vertical à l'entrée de ces virages rapides, ouais. Et dans ces virages rapides, surtout dans Beckett's, Magot's, Chapelle, cet enchaînement, et c'est vrai que ce circuit est un peu bosselé à ce niveau-là, ou en tout cas ouais, ça chahute un peu. Il faut y voir là une Mercedes réglée assez durement, c'est dur, oui. Avec sa charge aérodynamique au maximum, sûrement une hauteur de caisse au minimum, c'est-à-dire le plus bas possible,
pour garder évidemment une constance aérodynamique.
Exactement, hein. Et donc voilà, peut-être que pour Lewis Hamilton c'est un peu plus difficile que d'autres dans cette partie, mais c'est aussi le plus rapide dans le deuxième secteur, donc on peut pas tout avoir, et effectivement au moins ça laisse un challenge aux pilotes, le fait que ça bouge un peu plus, parce que si avec la vitesse maintenant que les Formule 1 arrivent à avoir dans ces virages rapides, si c'était facile, ça serait plus rigolo, donc c'est bien aussi d'avoir un peu des mouvements comme ça et des bosses sur la piste.
Et puis effectivement Adrien, tu l'avais observé, on en a parlé ensemble en qualification, effectivement on avait l'impression que la Mercedes avait très peu de véritables suspensions. On l'a dit avec toi Lucas, Pirelli a apporté des pneus, alors très dur, on a l'impression qu'ils ont peur de ce circuit, de ce juge de paix, qu'ils redoutent ce circuit avec même des pneus super durs. Là c'est même plus du bois, c'est vraiment de l'ébène, hein. C'est incroyable ce qu'ils ont apporté, puisque les pneus bleus, d'ailleurs c'est assez bizarre, les plus durs sont les bleus, qui ont quasiment pas été utilisés par l'ensemble des pilotes.
Oui, alors on faut se rappeler de l'épisode de l'année dernière, hein. Ferrari avait connu des problèmes, Ferrari avait crevé, on était sur un jeu pneumatique complètement différent avec des super tendres comme pneus les plus tendres, et cette saison on vient avec un composé beaucoup plus dur pour prendre moins de risques, hein, on le sait, hein, de toute façon Pirelli ne se mouille pas, c'est la devise du manufacturier italien, on ne prend pas de risques, et donc on est venu avec un composé très dur, mais le problème c'est qu'il est tellement dur qu'il ne fonctionne pas. Donc les écuries ne vont vraisemblablement pas le mettre, et c'est surtout qu'on ne pensait pas avoir des températures sur la piste aussi élevées, jusqu'à 55 degrés hier, rendez-vous compte. Donc on pourrait avoir beaucoup de blistering cet après-midi. On a discuté également avec Pirelli et on ne sait pas encore quelle stratégie on va adopter, si on va se placer plutôt du côté de un arrêt, ce qui semble difficile avec cette piste très chaude, ou plutôt deux arrêts, ce qui semble plus sûr.
Allez, c'est la 76e pole position signée par Lewis Hamilton en Formule 1, la 4e de la saison après l'Australie. Après, il y avait une belle série de Vettel et puis il avait signé la pole en Espagne. On l'avait retrouvé en France, on s'en souvient, Lewis Hamilton, le voilà en Grande-Bretagne. Alors effectivement, il était arrivé presque au dernier moment l'an dernier. On se souvient qu'il n'avait pas participé au grand show à Londres. D'ailleurs, la presse locale et une partie des spectateurs l'en avaient voulu. Mais écoutez-le, écoutez tout à la joie au micro de Lucas Vinoit, cette 76e pole de sa carrière. Lewis Hamilton.
C'est la même chose chaque année. Un grand prix à domicile est forcément spécial par rapport à toutes les autres courses du calendrier. C'est un vrai privilège d'être ici. J'ai regardé les moments forts de l'année dernière et à la fin de la course, on voit tous les drapeaux britanniques dans les tribunes. C'est toujours un sentiment extraordinaire. Les fans sont vraiment incroyables et la météo n'a jamais été aussi bonne. En plus, nous sommes encore présents à la Coupe du Monde. C'est un moment important pour le sport britannique.
Ben c'est clair, Lucas, on le sent porté par le public, évidemment, Lewis Hamilton qui est chez lui, qui est à domicile. On le sait aussi, la majeure partie des équipes de Formule 1 sont à un jet de pierre ou quasiment du tracé, à l'exception évidemment notable de Ferrari, de Sauber, bon, Renault est même à moitié là aussi pour ce qui concerne le châssis. On est vraiment au pays de la Formule 1, on peut dire ça, Lucas?
Bah complètement, Force India est à Silverstone, donc on peut pas être plus près. Et comme tu le disais, même Haas a une antenne ici en Angleterre. Renault est à Enstone, McLaren à Woking. Oui, c'est le pays des sports mécaniques. Il y avait quasiment 100 000 personnes hier pour les qualifications et on attend entre 100 et 120 000 personnes encore aujourd'hui. 100 000 personnes hier, rendez-vous compte, alors qu'il y avait le match de l'équipe d'Angleterre. Donc on se rend compte qu'ici le sport mécanique a une place extrêmement importante, parfois même toute proche du football.
Et puis on rappelle que c'était un aéroport qui était utilisé par la RAF pendant la dernière guerre mondiale, qui a été converti en circuit, donc et utilisé comme tel depuis 1948 et depuis les débuts.
Et on surnomme Silverstone la mecque des sports mécaniques. Angleterre. C'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire là-bas, Technopole, etc.
Ouais, c'est génial. Et là aussi, on espère évidemment que parce que c'est un circuit rapide, très rapide, Adrien, que les pilotes adorent. Il faut le dire aussi, Silverstone, on l'a amélioré la sécurité dans un certain nombre de virages, mais ça reste un circuit d'engagement, un circuit de pilotes courageux.
Oui, c'est un des rares circuits qu'on a modifié et qui a gardé toute sa splendeur. J'ai eu la chance de rouler dans les deux configurations et c'est vrai qu'on a gardé ces virages mythiques qui sont Copse, Beckett, Maggots, Chapelle, Stowe, j'en passe, Abbey. Ouais. Abbey, c'est un nouveau virage, c'est le nouveau premier virage. Qui en fait amène un nouveau premier secteur assez technique, assez compliqué, donc un nouveau challenge pour les pilotes en plus de toute la partie très rapide du circuit et de cette longue ligne droite qui suit en fait Copse et cet enchaînement Beckett Maggots Chapelle. Ouais. mais c'est arriver là-dedans dans cet enchaînement dans une voiture comme une Formule 1 où on passe à quasi 300 km/h dans les virages, ben c'est à chaque fois un kiff, permettez-moi de le dire à tous les tours.
Ah oui, ben c'est ce que les pilotes adorent. Alors Vettel un petit peu déçu malgré tout de cette deuxième position sur la grille de départ, il sera quand même aux côtés du poleman Lewis Hamilton. On l'écoute au micro de Lucas Vinoit avec la Ferrari, évidemment, Vettel.
Lors de ma dernière tentative, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu beaucoup de temps dans les lignes droites. Les virages étaient plus rapides que ce à quoi nous nous attendions. J'ai perdu un peu de temps au virage 3 et 6, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. La voiture était performante, nous aurions aimé plus forcément, mais il faut désormais se concentrer sur la course.
Alors Lucas est 55 millième, c'est décidément, c'est à chaque fois c'est deux chiffres identiques, hein. 44 entre Hamilton et Vettel, 55 à peine entre Vettel et Raikkonen. Ça veut dire, Lucas, qu'il y a moins d'un dixième de seconde entre le premier et les troisièmes des qualifs, Kimi Raikkonen en l'occurrence.
Ouais, c'est extrêmement serré. Alors on avait vu venir le coup, hein, puisque déjà pendant les séances d'essais libres, c'était déjà extrêmement serré. Et ce qui est assez étonnant quand même, c'est Kimi Raikkonen, hein, qui est en moyenne 2 dixièmes derrière Sébastien Vettel depuis le début de la saison. Et là, il a réussi à se rapprocher très près. Alors est-ce que c'est une bonne performance de Kimi Raikkonen ou est-ce que c'est une petite contre-performance de Sébastien Vettel? Difficile à dire. En tout cas, Vettel a eu un problème au cou à partir de vendredi. Il est un petit peu bloqué et on sait que sur un circuit aussi exigeant physiquement, où il faut s'engager, notamment dans les enchaînements rapides, peut-être que ça lui a coûté pour aller chercher la pole position.
Allez, on va écouter justement la troisième force du plateau, après Hamilton évidemment et sa Mercedes. On vient de parler des deux Ferrari, de Vettel et de Raikkonen. Eh bien, Bottas a signé le quatrième temps, a quand même 3 dixièmes de son leader Hamilton. On trouve les deux Red Bull du vainqueur du dernier Grand Prix en Autriche. Il s'agit de Max Verstappen, que l'on écoute au micro de Lucas Vinoy à propos justement du niveau réel de ces Red Bull Renault.
Je pense que ça dépend des circuits. Si les lignes droites sont longues, notre monoplace est troisième dans la hiérarchie. Mais s'il n'y a pas trop de lignes droites, nous avons le meilleur châssis, donc nous sommes très compétitifs. Le problème ici, c'est que certains virages sont devenus des courbes qui se prennent à fond. Ce sont en quelque sorte des doubles lignes droites, ce qui est pénible pour nous. Par exemple, le virage numéro 1, Cobbs, il n'y a pas besoin de relâcher, et c'est regrettable. Je ne m'attends donc pas à être très compétitif sur ce circuit, mais nous serons quand même là.
Adrien, difficile de faire un pronostic, mais un mot sur les chances des Red Bull en course. Alors évidemment, l'Autriche était atypique, hein, on le rappelle, les deux Mercedes qui abandonnent sur des problèmes mécaniques, Ricardo aussi qui se retire. Est-ce que les Red Bull ont une chance malgré tout face aux deux principales équipes du plateau?
Je crois que Max Verstappen a tout dit et on l'a vu aussi en essai libre. C'était la seule monoplace qui était capable de prendre le deuxième virage avec le DRS activé, donc sans l'aileron arrière plus ou moins, ou avec la moitié de l'aileron arrière. Donc ça veut dire qu'en châssis et en aérodynamisme, elle est très efficace. Maintenant, il leur manque clairement de la vitesse de pointe, surtout par rapport à la Mercedes. Et sur un circuit comme Silverstone, c'est compliqué. Il l'a dit aussi, les monoplaces se sont tellement améliorées avec le temps et que certains virages sont devenus des quasi lignes droites. Donc ça rend en fait deux lignes droites coupées par un virage en une seule ligne droite. Et pour eux, c'est une grosse perte de performance, en tout cas de dixième sur un tour. Donc ça sera compliqué. Maintenant, on l'a vu en Autriche, ça reste du sport mécanique. On arrive à un moment de la saison où les quotas de moteurs, etc. On va commencer à rentrer dans un moment un peu tendu, je pense, dans la gestion de tous ces quotas. Et tout peut arriver. Maintenant, ils sont pas favoris, loin de là.
On reparle de ce circuit puisque les pilotes français en ont parlé à Lucas Vinoy. On va commencer par Esteban Ocon. Esteban Ocon que l'on va retrouver dixième sur la grille de départ, qui nous parle de ce tracé de Silverstone.
C'est un circuit avec un passé énorme déjà. Ça a toujours été réputé pour les virages rapides, les enchaînements de virages, comment tu dois être brave sur cette piste, et c'est toujours le cas, même de nos jours. On rentre à des vitesses folles dans les virages, plus de 300, il y a des virages qu'on prend. C'est à fond, presque à fond, enfin c'est vraiment sympa. Peut-être la piste où il y a le moins de gros freins de l'année. Donc moi j'aime bien, ouais, c'est clair que c'est une piste que j'apprécie.
Et ben voilà, tout est dit, et Adrien, tu en as parlé tout à l'heure, Lucas, tu le sais aussi, il y a cette petite lumière qui brille dans les yeux des pilotes. Bah tiens, ça tombe bien, on va écouter tout de suite Pierre Gasly à ton micro également, Lucas, parler de ce tracé. Je crois que les avis sont quasi unanimes.
Silverstone, c'est un des circuits les mieux du championnat parce que c'est vraiment une piste où tu peux pousser la voiture à ses limites en termes d'appui aéro. T'as énormément de virages rapides. T'as le premier virage où maintenant, pour un peu plus fun, ils nous ont mis la zone DRS. Il y a toute la partie, l'ancien premier virage et Maggots Beckett, où le changement de direction et on doit être à 2,80, 2,50 dans le dernier virage. En termes de G, on en prend plein la tête et ça va à une vitesse folle, donc c'est vraiment, c'est un kiff.
Et ben voilà, c'est tout ce que les pilotes aiment. De toute façon, plus ça va vite, et Adrien nous l'a dit tout à l'heure, mieux c'est pour les pilotes, et il faut en tenir compte de tout ça dans la définition des nouveaux circuits. On a encore plein de choses à vous dire évidemment en matière de Formule 1, mais vous allez le voir, on va avoir un invité star, un invité vedette, même s'il n'aime certainement pas cette terminologie. C'est dans un instant, c'est dans Motors, vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, on revient tout de suite dans Motors et c'est pour le briefing.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Et oui, et pourtant, il n'avait pas de copilote lors de son ascension de la course de côte de Pikes Peak, la course vers les nuages. C'est Romain Dumas qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Motor. Salut Romain.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Salut Romain. Écoute, je vais très vite hein, parce que je sais que tu es pressé, tu es au Mans Classique et je sais que tu vas prendre le départ d'une course. D'ailleurs, tu as le privilège de prendre le volant de, tu me l'as dit, de deux machines absolument extraordinaires. De quoi s'agit-il?
Voilà, écoutez, je suis sur la grille de départ avec une 917-1969, le premier modèle, avec un énorme moteur, c'est-à-dire un flat 12 dans mon dos.
C'est
une
génial.
Chaleur terrible ici. Le moteur fait aussi une chaleur terrible à l'habitacle. Mais non, c'est un vrai retour dans le futur, dans le passé, pardon. Et c'est assez surprenant comme voiture. C'est la première fois que je conduis réellement dans une course. Si on peut appeler ça, nous, une course, c'est plus une exhibition, mais...
Oui.
Et en tout cas, ça crée... challenge en tout cas, voilà.
Absolument. Alors Romain, j'ai absolument voulu t'avoir. On a essayé hein, la semaine dernière, on dit tout comme d'habitude, je l'avais signalé, mais tu étais encore aux États-Unis à Watkins Glen. Donc pour célébrer ce record extraordinaire que tu as établi à Pikes Peak. Alors, on le rappelle hein, Pikes Peak effectivement, c'est cette course de côte absolument infernal, où on part à 2800 mètres d'altitude, on arrive à 4300 mètres, et donc le temps, 7 minutes 57 secondes, 148 millième. Alors comment as-tu fait avec cette Volkswagen électrique? Et on va y revenir.
Ouais, comment j'ai fait? J'ai préparé notre course,
ouais,
on a fait des bons essais, la voiture a... Bon, déjà la voiture, le châssis, c'était à la base mon châssis l'année dernière, donc la norma que Volkswagen a modifié. L'année, c'était un châssis complètement terrible en termes d'appui aérodynamique. C'est là le proto que j'ai conduit le plus surprenant en termes de grip latéral. Et après, la batterie pour Pikes Peak, pour tout le monde qui va me le demander ou qui me l'ont demandé dans le week-end, je suis toujours pas fan des voitures électriques, je ne ferai pas de la Formule 2. Mais,
mais tu vois, on est au moins deux. Cas,
bon, on est trois,
allez.
Pour Pikes Peak, si vous faites une course qui dure... 20 km et qui va faire moins de 9 minutes, maintenant 8 minutes. Le meilleur rapport, on pourrait dire, pour la performance et qualité et chrono, c'est la batterie. Donc, à la fin du compte, moi, je suis toujours fan de résultats. Pour Volkswagen, ils ont fait un travail remarquable, incroyable, avec un fils de maison à la tête de tout ça, qui a fait une voiture en 8 mois, avec vraiment un développement fou. Et la voiture a terriblement bien marché, c'est juste vraiment amusé. C'était pas du tout gagné d'avance, tellement le pari technique était osé. Mais voilà, on a tous aimé ce défi électrique.
Voilà, tu as bien résumé Romain, évidemment je voudrais revenir là-dessus et je sais qu'on va te lâcher assez vite hein, parce que tu es en pré-gris, tu nous le diras d'ailleurs à quel moment tu dois absolument entrer dans cette Porsche 917. Moi c'est voilà, tu as tout dit, c'est-à-dire que c'est un véhicule électrique mais celui-là, il est très performant dans ces conditions-là, comme tu l'as dit, pour 20 km et puis il s'agissait là de conserver la performance en altitude et là évidemment, il y a rien de mieux que l'électrique puisque tu ne perds rien entre le départ et l'arrivée, même à aussi haute altitude.
Exact, on ne perd pas de puissance. De plus, on a quand même une facilité de conduite du fait qu'on a, ça paraît incroyable, mais on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, mais on n'avait pas de vitesse et, à passer et à de telles accélérations et de tels freinages, de ne pas avoir de vitesse à changer, c'est aussi une facilité de conduite. Et après, là où on gagne énormément aussi, c'est dès le moment où on met le pied sur l'accélérateur, forcément il n'y a aucun temps de réponse.
Et oui.
Donc voilà, la voiture était très agréable à conduire. Après, comme je vous ai déjà dit, le châssis était aussi pour beaucoup.
Bien sûr.
C'était simplement, pour moi, un des meilleurs protos que j'ai jamais conduit. Même si c'était sur une route, on a atteint des vitesses ou de jets latéraux.
Romain, en termes de jets latéraux, tu compares ça à un proto LMP1 du Mans? Est-ce que tu as roulé au Mans ou non, quand même pas?
Oui, je pense tout aussi bien, voire un peu mieux.
D'accord.
On était de l'ordre de 3G latéraux au milieu des arbres, donc pas en pic mais en constant, donc ouais. C'est plutôt pas mal.
Bah c'est carrément éblouissant. Ouais. Et on rappelle que c'est ta quatrième victoire à Pikes Peak en 6 départs. Et tu as raison de parler de ton équipe RD Limited, puisque RD c'est Romain Dumas, hein, évidemment. Ta petite équipe formidablement soudée, comme tu l'as dit, un châssis Norma au départ. On peut dire que c'est l'alliance parfaite là entre une petite équipe de course ultra motivée et un grand constructeur, Romain.
Oui, bon, après, à la fin du compte, ça a simplement, je veux dire, dès le moment, on savait très bien, quand l'année dernière, Fiche de Maison m'a contacté pour parler de ce projet-là, on était tout à fait conscient que, même avec un, on pourrait dire, un plus petit commando de ce que j'ai été habitué chez Porsche, hein, parce que là, sous FX, pour ce projet-là, il y avait une trentaine de personnes, on pourrait dire, au grand maximum, mais ils ont rapidement compris et bon, après, quand vous avez la chance de travailler avec des gens qui ont été champions du monde de rallye ou qui ont gagné le Dakar, forcément, c'est pas vous qui allez leur apprendre grand-chose, mais d'avoir notre expérience des années passées avec toutes les difficultés de Pike's Peak, parce que du coup, ils s'en sont aussi rendus compte d'arriver là-bas. C'est une course terriblement difficile, comme je dis toujours. Pourquoi? Ben parce que vous avez affaire déjà à des Américains chez eux dans leur course, donc chaque année, ils sont contents que vous veniez, mais c'est pas les plus ravis de voir chaque fois des Européens gagner.
C'est clair.
Et après, ils sont contents d'avoir des constructeurs, mais aussi, ben, ils aiment bien garder cette course à une plus petite échelle, ouverte à tout le monde. Donc, il y a plein d'expériences là-bas.
Ouais, et il faut le dire. Ah, on a peut-être perdu Romain. Est-ce qu'on le retrouve? Non, on l'a peut-être perdu. Bon, je crois qu'il nous a dit largement l'essentiel. Enfin, à nouveau, félicitations à Romain Dumas. On va y revenir avec Aurélien Tirsain tout à l'heure, parce que vraiment, il y a des choses à dire sur ce pilote, qui est un pilote éclectique, qui est extrêmement rapide dans toutes les disciplines, puisque bien sûr, il a gagné Le Mans, il a gagné l'American Le Mans Series aux États-Unis. Il fait du rallye avec une Porsche qu'il a développée lui-même. Il a fait le Paris-Dakar. Enfin, c'est on va en reparler tout à l'heure. Merci infiniment à Romain, qui a dû s'installer au volant de sa Porsche 917. Là aussi, juste un mot là-dessus, Adrien, c'est quand même mythique, hein, cette Porsche 917, on s'en souvient, qui était un proto absolu, même si on a eu 25 exemplaires développés pour l'homologation en 69 au Mans. C'était un engin diabolique.
Ouais, incroyable. Après, j'étais pas né, Jean-Luc.
Oui, moi si. j'étais pas grand, mais je m'en souviens.
C'est vrai que c'est fantastique, mais c'est surtout ce Romain qui est aussi un ami. J'ai la chance de rouler avec lui en GT, et c'est un vrai passionné. Il en reste encore des gens comme lui. Il roule aussi bien en rallye qu'en circuit. Il était aux portes de la Formule 1 il y a des années maintenant, mais voilà, vainqueur du Mans plusieurs fois. C'est un grand pilote, et c'est surtout un mec formidable et plein de passion. Et c'est toujours très sympa de partager les expériences avec lui.
On va en reparler avec Aurélien, je le disais tout à l'heure, mais pour l'heure, c'est l'heure du Franchise Corner.
RMC Motors, le Franchise Corner.
Et voilà, avec l'accent, effectivement, le Franchise Corner, vous le savez, c'est la partie, et Lucas Vinois est toujours avec nous, qui concerne les Français. Alors, si on prend la grille de départ, effectivement, Lucas, on s'aperçoit qu'ils se sont pas trop mal sortis de ces qualifications. On va d'ailleurs commencer par écouter Esteban Ocon, mais c'est un circuit, là aussi, où les monoplaces, effectivement, dont disposaient les Français, ont pu relativement s'exprimer, Lucas.
Oui, bien sûr, hein, puisque Esteban Ocon est équipé, on le sait, d'un moteur Mercedes. Et ici, on a entendu Max Verstappen le dire, le moteur est extrêmement important, puisqu'on passe beaucoup de temps à fond, hein, la pleine charge est vraiment importante sur ce circuit. En plus de ça, la Force India a progressé en châssis. Donc forcément, oui, Esteban Ocon allait plutôt bien s'en sortir. La petite surprise, et elle est souvent, elle revient de plus en plus sans cesse, et tant mieux, c'est plutôt Charles Leclerc et sa Sauber qui se sont hissés en Q3 pour la deuxième fois cette saison, alors qu'on ne les attendait pas du tout à pareille fête ici.
Allez, on va en reparler. La performance d'Ocon, donc c'est 10e, on vient de le dire, avec cette Force India. Il devance son équipier Perez qui est 12e, mais la question que tu as posée, Lucas, c'est sur la difficulté d'enchaîner ces 3 Grands Prix les uns après les autres. On va tout de suite écouter Esteban Ocon, bien équipé également.
Moi j'aime bien forcément rouler tous les week-ends. Après, je pense que c'est très dur pour les gens qui travaillent à l'usine. On a été à Brixworth, vous voyez les cernes sur le visage des gens, sur tous les ingés, essayer de cerner les problèmes qu'on a eu récemment sur les 3 courses, sur le moteur, sur l'hydraulique, tout ça. Et ils étaient vraiment fatigués, donc je pense que c'est quand même bien qu'il y ait une coupure, quoi.
En un mot, Adrien, ça peut engendrer des problèmes même de, j'ose dire, de sécurité éventuellement dans les équipes ou pas à ce point-là, la fatigue des mécanos qui sont vraiment poussés comme les mécaniques à l'extrême, c'est le cas de le dire.
Mais ça peut toujours effectivement. Bon, maintenant on sait qu'il y a des parcs fermés, il y a des règlements qui font qu'au bout d'un moment, les mécanos sont
oui, on les
obligés
envoie au lit,
de
hein, c'est
voilà,
ça.
Sont obligés de rentrer dormir, mais c'est vrai que voilà, on a besoin en Formule 1 d'une équipe qui est toujours à 100% de son état mental mais aussi physique et quand on enchaîne comme ça trois grands prix, surtout si on a des problèmes dans un de ces grands prix, ouais. il faut arriver à les régler, faut arriver à inverser la tendance s'il y a une spirale négative qui intervient. Donc ça peut être un tournant de la saison aussi, un moment crucial. On a vu des erreurs à droite et à gauche de certains pilotes aussi. Il n'y a pas que les ingénieurs et que les mécaniciens qui sont fatigués, les pilotes aussi. C'est trois semaines qui passent très vite. On passe d'un circuit à l'autre. On a des obligations médiatiques aussi, les sponsors, etc. Et garder la concentration comme ça aussi longtemps, enfin en tout cas sur des courses successives, c'est pas forcément simple.
Mais c'est pas forcément simple. Effectivement, c'est ce que t'as confié également Lucas Romain Grosjean à propos de ce triple header. C'est ainsi qu'on l'appelle en langage britannique, c'est-à-dire les trois courses qui s'enchaînent. On vous le rappelle, le Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, dont c'était évidemment le retour, le Grand Prix d'Autriche qu'on a vécu ensemble sur l'antenne de RMC, et puis ce Grand Prix de Silverstone. On écoute Romain Grosjean.
On est tous fatigués sur ce troisième Grand Prix d'affilée. Après, j'apprécie plutôt ça. Honnêtement, c'est une belle expérience. Je trouve qu'on reste dans le rythme et tant qu'on peut en avoir en Europe beaucoup qui se suivent, c'est pas plus mal plutôt que partir de semaine au fin fond du monde. Donc au final, si on doit avoir plus de Grands Prix, les avoir comme ça la suite des uns des autres, pas trop loin de la maison, c'est plutôt positif.
Lucas, c'est que c'est difficile à estimer de cette manière-là, mais sur les visages des mécaniciens, des ingénieurs, enfin du monde de la Formule 1 que tu côtoies chaque semaine, là aussi on en parle, enfin justement de cette fatigue, presque cette lassitude. Pourtant, on aime la course, hein.
Bien sûr, on en parle. On en parle forcément puisque il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire, hein, que ce soit pour les mécaniciens. Les pilotes voyagent dans des conditions plutôt favorables, hein, et puis ils repartent très tôt dès le dimanche. Les pilotes, ils sont repartis du circuit. Pour les mécaniciens, il faut démonter le stand. Pour les personnes qui s'occupent de la logistique, il faut démonter les motorhomes et après faire la route en camion pour la plupart pour remonter encore les hospitalités sur un autre Grand Prix, à un autre endroit. Et certaines personnes des hospitalités, on ne les nommera pas, nous ont dit que c'était complètement une connerie d'avoir fait ça parce qu'ils en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau. Alors pour la logistique, il y a eu des remplacements, c'est-à-dire que de nouvelles équipes ont été recrutées pour un des trois grands prix de ce triple header, mais pour les mécaniciens, ce n'est pas possible et donc eux sont au bout du rouleau et sont très contents de pouvoir couper la semaine prochaine.
Oui, c'est un vrai souci et d'ailleurs les équipes ont demandé officiellement à Liberty Media, qui vous le savez est responsable du calendrier, qui est entériné par la FIA, après que ça ne recommence pas l'année prochaine, parce que même s'il y a encore une bonne vingtaine de Grands Prix, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas trois Grands Prix qui se suivent. On va écouter sur le même sujet Pierre Gasly, qui est nouveau, vous le savez, en matière de Formule 1, mais qui lui aussi pense aux hommes de son équipe, au micro de Lucas Vinoy.
C'est vrai qu'à l'hospitalité, on parlait ce matin, eux ils sont pas rentrés à la maison depuis le Paul Ricard. Les mécanos c'est pareil. Là j'ai eu un jour à la maison après l'Autriche, donc c'est un peu plus simple pour nous, mais c'est vrai que les week-ends sont super chargés. On le sent, surtout en commençant avec la France c'était très très chargée, l'Autriche avec Red Bull c'était super chargé. Donc pour moi ça va, après c'est plus par rapport à l'équipe et quand tu penses un peu à toutes les familles qui sont impliquées et tout ça, je pense qu'il y a plus d'une femme qui doivent gueuler un petit peu parce que c'est pas une vie qui est très simple. Je pense que c'est quelque chose à refaire. Après, c'est en tant que pilote, moi je suis super content. J'ai trois jours entre chaque week-end, j'arrive sur une nouvelle piste, je peux courir tous les week-ends et c'est ce que j'aime faire. Donc non, pour moi c'est bien.
il est cash, hein.
Il a raison.
Bien sûr qu'il a raison. On en revient donc à cette grille de départ dont on vous a parlé, puisque derrière, encore une fois, Hamilton Vettel, première ligne, Raikkonen Bottas pour refixer évidemment les performances, ça c'est la deuxième. La troisième, elle est entièrement aux mains de Red Bull avec Verstappen et Ricciardo. La quatrième, eh bien, ce sont les deux hommes de Haas Ferrari, c'est-à-dire Magnussen et Romain Grosjean qu'on a écouté. Et sur la cinquième, on va trouver un étonnant Charles Leclerc avec à ses côtés Esteban Ocon. Écoutons justement ce que Charles Leclerc a à nous dire à propos des progrès de cette équipe sober motorisée par Ferrari.
C'est vraiment des progrès, course après course. Là, ça se voit surtout sur une piste comme Silverstone. Il y a beaucoup de virages rapides. C'était vraiment notre point faible en début d'année. Et là, on est plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment top. C'est une grosse motivation pour le team. Ça fait que de les pousser en avant. Et ils voient que le boulot qu'ils font à l'usine, ça paye sur la piste. Donc c'est top.
C'est top, effectivement. Alors Lucas, on en parle beaucoup de Charles. Hein. Là aussi, je sais que le paddock bruisse de rumeurs concernant le fait que ce serait fait, pas fait. On parle de cet accord, évidemment, avec Ferrari. Lui, à juste titre, le pilote refuse de s'exprimer. Est-ce que tu as le sentiment que chez Ferrari, on pourrait annoncer ça, on va dire, du côté de la rentrée, c'est-à-dire entre Spa et Monza, comme par hasard ?
Ça, c'est difficile hein, parce que ouais. Pour l'instant on n'a rien communiqué à Raikkonen, donc Raikkonen lui n'est au courant de rien. On le sait hein, le pilote finlandais qui est en fin de contrat à l'issue de cette saison. Voilà, chez Ferrari de toute façon et on va pas vous le cacher, en Formule 1 c'est le bloco Ferrari hein, c'est un peu impénétrable, c'est très difficile même pour les médias de travailler, c'est très compliqué. Mais Moi je pense, en tout cas selon les informations que j'ai, que ça ne sera pas annoncé tout de suite du tout. En revanche, je n'ai pas plus d'informations que la semaine dernière en Autriche, mais oui, ce serait fait.
Alors, Adrien, je vais pas te poser de questions pièges non plus, mais enfin, toi tu as peut-être aussi le sentiment que on se dirigerait vers cet accord, hein. Ça paraît vraisemblable, c'est-à-dire que Ferrari franchirait le pas et intégrerait un jeune pilote qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps.
Mais en tout cas, je le souhaite vraiment après la mésaventure ou en tout cas le passé qu'il y a eu avec ou pas eu justement avec avec mon ami Jules Bianchi et aujourd'hui, on est dans la plus ou moins dans le même schéma et on a un Charles Leclerc qui peut pas mieux faire dans sa première saison de Formule 1 qui a tout ce qu'il faut pour aller chez Ferrari et pour être le deuxième pilote derrière un Sébastien Vettel. On a déjà un pilote sûr en la personne de Sébastien Vettel. Pourquoi ne pas prendre Charles Leclerc qui aura terminé son apprentissage de la Formule 1 après un an, même si on en apprend toujours à ce moment-là. Sébastien Vettel aussi en apprend à chaque course. Donc à un moment donné, même si c'est Ferrari, si c'est une grande équipe, il faut faire confiance à un jeune et ça fonctionne avec un Max Verstappen chez Red Bull, ça a fonctionné même avec Lewis Hamilton à l'époque chez McLaren, ça fonctionnera avec Charles Leclerc et je pense aussi que c'est en très bonne voie.
Et qui avec sa Sauber Alfa Romeo donc totalise 13 points au classement général provisoire du championnat du monde après avoir marqué à 5 reprises dans les 9 premiers Grands Prix. Voilà, on vous a parlé de Formule 1 dans Motors juste avant le départ du Grand Prix à 15h10 tout à l'heure en direct bien évidemment sur RMC avec Lucas que je remercie, avec Adrien qui va rester avec moi et dans un instant on passe évidemment à la troisième partie de Motors, ce sera Radio Paddock et vous verrez, on parlera de moto, on parlera de différents sujets, on aime bien. Donc, restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et vous le savez, nous aussi, on est à très haute vitesse, comme à Silverstone, dans le cadre de Motors. On est déjà dans la troisième ligne droite et c'est le moment, évidemment, d'aborder Radio Paddock.
RMC Motors.
Mais avant,
Radio Paddock.
Mais avant, on fait un saut du côté du Tour de France puisqu'on retrouve pile Pierre-Yves Leroux sur la moto du Tour dans la deuxième étape du Tour. Bonjour Pierre-Yves.
Salut Jean-Luc.
Alors, tu nous dis où on en est. On est toujours en Vendée, bien évidemment. On est entre Mouilleron, Saint-Germain, si je ne m'abuse, et La Roche-sur-Yon.
Exactement, une étape de 182 km qui est partie il y a une grosse demi-heure maintenant à 13h10 sous la chaleur de la Vendée. Toute cette étape se déroulera effectivement dans ce département avec des inquiétudes mais les questions autour de Froome évidemment, de Richie Porte et de Quintana qui ont perdu du temps, on le rappelle, 51 secondes pour Froome hier et trois hommes pour l'instant sont échappés. Sylvain Chavanel de l'équipe Direct Energy, donc sur ses terres, Michael Gogel, un Autrichien, et Diane Smith, un Néo-Zélandais. Les trois hommes comptent un peu plus de 2 minutes d'avance dans le bocage vendéen sur le peloton.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, je dis bien pile, depuis la route du Tour, effectivement trois échappés, c'est comme hier, hein, puisque dans la première étape, c'était aussi le cas, je vous l'ai dit, dans Radio Paddock, on parle de différents sports mécaniques, évidemment, avec Aurélien Tirsin. Bonjour Aurélien.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Alors, je crois qu'il va être question de moto, si je ne m'abuse, et je crois pas me tromper.
De moto GP, on va faire un petit point sur le classement général d'abord du championnat du monde après le Grand Prix d'Assen la semaine dernière. C'est la 8e course de la saison. On retrouve au 5e rang l'Italien Andrea Dovizioso avec 79 points. Joan Zarco qui a rétrogradé depuis quelques semaines au 4e rang. Le Français avec 81 points. Sur le podium, Maverick Vinales, l'Espagnol 93 points, 3e. Valentino Rossi qui est toujours là, un 2e avec 99 points même s'il n'a gagné aucune course. Et puis en tête avec 140 points, Marc Marquez, l'Espagnol de chez Honda, 4 victoires sur 8 courses. Il est déjà quadruple champion du monde. Il possède 41 points d'avance sur le deuxième, en l'occurrence Valentino Rossi. C'est énorme, 41 points d'avance après 8 courses.
Alors c'est énorme Aurélien, effectivement, et si nous avons souhaité reparler de moto, c'est aussi pour revenir sur ce Grand Prix d'Assen. Alors Assen, on le sait, ça a longtemps été le seul motodrome au monde, même si on parle éventuellement de faire venir la Formule 1, mais je crois que personne n'y tient vraiment, à cause de quoi ? À cause de la Hollande, bien sûr, et de Max Verstappen, donc essayer de recréer un Grand Prix de Hollande qui a existé. Alors je voudrais revenir sur ce Grand Prix qui s'est déroulé le week-end dernier, qui a été absolument fabuleux, avec 8 pilotes en bagarre, et si on regarde les écarts, on peut même y intégrer Alvaro Bautista. Un Grand Prix, pour appuyer ce que tu disais Aurélien, qui a été remporté par Marc Marquez, qui est sorti de la boîte finalement à 2-3 tours de l'arrivée seulement, mais qui triomphe devant Alex Rins, donc une Honda, celle de Marquez, tu l'as dit, avec une avance de 41 points, devant Alex Rins, une Suzuki. On n'attendait pas forcément Rins aussi bien placé. Mais après, la Yamaha de Vinales, là aussi, qui revient un petit peu aux affaires. La Ducati de Dovizioso, ce qui veut dire qu'on a eu 4 marques différentes aux 4 premières places.
Elles sont toutes là. Et on a vu plus de 100 dépassements dans ce Grand Prix. Alors forcément, c'est de la moto, c'est toujours impressionnant. Un des plus beaux grands prix de moto qu'on ait vu, peut-être même un des plus beaux grands prix de sport mécanique tout confondu. C'est magnifique de voir ces 7 pilotes en, tu disais 9 pilotes en 7 secondes et demie.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a comme moto qu'on peut voir ça. De toute façon, faut être très clair, une centaine de dépassements entre les 8 premiers seulement, puisque je le disais, Alvaro Bautista, il arrive à 7 secondes et demie, il arrive un petit peu sur les talons de Joan Zarco qui malheureusement lui fermait la marche en quelque sorte, mais il est resté sur ses roues, hein. Joan, il lui manquait un tout petit peu de performance avec sa Yamaha privé pour venir se mêler au jeu des pilotes d'usine. Et puis je souligne, à contrario de ce que je dis à l'instant, c'est que Cal Crutchlow est un pilote privé avec une Honda, et Crutchlow s'est battu, il était d'ailleurs sur la première ligne de la grille de départ, s'est battu avec les meilleurs pilotes d'usine. Est-ce qu'Adrien, et j'ouvre un peu le débat, est-ce que ces fameuses écuries satellites dont on parle parfois, c'est une des solutions, une des pistes, on le sait, pour grossir le plateau en Formule 1, ne serait pas la bonne idée, avec des machines qui sont finalement, la preuve, très proche des véritables machines d'usine, et puis des pilotes dont ça permet de révéler le talent.
Éventuellement Jean-Luc, mais je vois déjà un problème qui est la finance, parce que ouais, en moto ça coûte beaucoup moins cher quoi.
Ça c'est clair.
Qu'en Formule 1, et construire une moto c'est pas construire une Formule 1, et pour avoir disons 6 Formule 1 pareil, plus ou moins, puisque il faudrait une équipe d'usine et puis deux équipes satellites, bah ça coûte beaucoup plus cher que de fabriquer 6 motos. Donc elle serait pas assez égale en termes de performance comme des motos d'usine et des motos satellites peuvent l'être, parce que s'il avait pas la moto, Carl Crutchlow il serait pas devant.
Il pourrait bien.
Et puis une autre chose, c'est quand même Marc Marquez qui à chaque fois
souligne
sa performance, parce que c'est un sport où on a les 8 pilotes en quelques secondes, ouais. Ils se battent pendant toute la course, mais à la fin c'est qui? Voilà, qui gagne la course?
Il sort de la boîte.
C'est le plus régulier. Il y a 4 vainqueurs différents. Il y a Jorge Lorenzo qui a gagné 2 courses, Crutchlow 1, Dovizioso 1 et Marquez 4, la moitié. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est le seul à être aussi régulier dans cette catégorie reine.
Et je crois que l'an dernier, sur la saison, on a eu 8 ou 9 vainqueurs différents. C'est de mémoire, hein. Je crois qu'on a été jusqu'à 9, donc ce qui est absolument ahurissant. Mais tu as raison, Marquez, il a la mainmise. Alors, juste un mot, Adrien, et c'est toujours pour faire le parallèle, évidemment, avec la Formule 1. On peut dire une chose, c'est que quand même la Haas à moteur Ferrari et à mécanique Ferrari,
et la Sauber aussi,
et la Sauber, j'allais y venir, donc ça veut dire quand même que là, est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de transition, même si tu l'as dit, les budgets ne sont pas les mêmes.
Mais regarde, alors c'est relatif au budget en fait, parce que la Haas elle est quand même à une seconde de la Ferrari. Si c'était de la moto, elle serait à 2/10 de la moto d'usine.
Parce que
ça coûte 4 fois plus cher, et que 8/10 c'est forcément, enfin c'est quantifiable en termes d'argent aussi.
Voilà. Alors tu sais que c'est pareil, le cost cap, la fameuse réduction des budgets de Formule 1, c'est un sujet récurrent qui revient régulièrement et dont d'ailleurs on parle énormément entre les équipes et avec Liberty Media, parce que c'est une nécessité absolue. Comme on l'a dit maintes et maintes fois, et à moto c'est pareil, on dépense tout ce qu'on a, hein. De toute façon, plus il y en a, on trouve toujours moyen de dépenser l'argent que les sponsors mettent.
Ouais, en tout cas en moto c'est intrinsèquement un sport où il y aura plus de dépassements qu'en
oui,
voiture,
ça, c'est impossible
puisque forcément ouais. Sur un circuit on peut mettre 10 motos les unes à côté des autres, on peut pas mettre 10 voitures.
On a vu parfois 4 pilotes côte à côte.
Et en plus de ça, après il y a la dimension économique, mais bon c'est un vaste sujet et il nous faudrait des heures,
mais on a déjà pris quelques minutes dans le cadre de Motors pour parler donc de ce succès du championnat MotoGP, je crois qu'on peut le dire.
On est tiré vers le haut par tous ces pilotes. Là, c'est pas un nivellement vers le bas. Des pilotes qui sont très très forts. Il y a plusieurs champions du monde, Lorenzo, Rossi, Marquez. Il y a que des cadors sur la piste. Donc forcément, à chaque fois, c'est un régal de les voir sur le bitume.
Et puis on rappelle que la majorité du paddock de Formule 1, y compris les pilotes et surtout les pilotes, regardent tous les grands prix de MotoGP avec une passion dévorante. Et il faut quand même le dire et le rappeler. On a un autre thème peut-être qu'on a déjà abordé tout à l'heure avec, en l'occurrence, le héros lui-même, j'allais dire l'acteur lui-même.
Romain Dumas, effectivement, il était dans Motors tout à l'heure vers 13h20. Romain Dumas, c'est un pilote français, 40 ans, gardois, il vient d'Alès et c'est un touche-à-tout et surtout il a gagné un petit peu partout. Il a fait de la F3000, il a touché du doigt la Formule 1, il fait du rallye, il a fait le Paris-Dakar, il a surtout gagné en endurance, les 24 heures du Mans, encore le Nürburgring. Et là, il a encore gagné Pikes Peak, cette course de côte au Colorado aux États-Unis avec une Volkswagen électrique. Et ça, c'est encore une énorme performance et tu tenais à souligner ça, Jean-Luc, c'est un pilote qui touche à tout et qui est méconnu en France du grand public et qui gagne tout simplement.
Il est infiniment respecté et Adrien le connaît très très bien puisque tu me racontais cette anecdote qui est très intéressante, c'est que tu as fait du kart avec lui il y a très longtemps. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui adore tellement piloter, même étant et là aussi il n'est pas malheureusement connu comme il devrait l'être du grand public, puisque la Formule 1 focalise tout, mais quand même vainqueur des 24 heures du Mans avec Porsche, champion du monde d'endurance. Enfin encore une fois, en plus, c'est un type formidable.
Surtout, il a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense. Il a dit qu'il ferait jamais de Formule E
à un autre micro.
Il l'a dit tout à l'heure, alors qu'il vient de gagner avec une voiture électrique.
Mais qui fait 680 chevaux, équivalent. Pas tout à fait la même classe.
Il dit ce qu'il pense et c'est un vrai passionné de sport mécanique et sport mécanique au sens global, l'endurance, la Formule 1, le GT, le rallye où il est très très bon. Et quand on sait que le rallye c'est très compliqué, j'ai eu la chance d'en faire deux dans ma vie. Et performer comme il le fait lui avec des Porsche, parce qu'il fait du rallye, mais avec des Porsche dont il s'occupe lui-même avec son équipe. C'est un vrai passionné, il met les mains dedans dans le cambouis aussi ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça. Bon, il a quel âge maintenant, Romain?
40 ans.
Il est toujours très performant,
mais il a toujours la même fraîcheur effectivement. Puis comme tu le disais, c'est quelqu'un qui n'hésite jamais de toute façon à se remettre en question et dans des circonstances difficiles. Alors, il y a une chose sur laquelle on n'a pas eu le temps d'insister peut-être, parce que Pikes Peak, encore une fois, ça ne parle pas à beaucoup de gens, hormis les gens du sport mécanique, et ceux qui nous écoutent évidemment dans Motors sont initiés à ça, c'est que c'est très dangereux, parce qu'il y a effectivement trois parties, c'est une montée d'une vingtaine de kilomètres entre 2800 mètres d'altitude et 4200 mètres d'altitude, et il y a très peu de protection, Adrien. C'est-à-dire qu'il y a les arbres, et puis après, c'est le ravin.
Oui, et puis en plus, on n'a pas de copilote, c'est pas comme du rallye, donc il faut vraiment être à 100% sûr de quel virage arrive ensuite. Et après, Romain est un habitué du Monte Carlo, du rallye du Var, qui sont quand même des rallyes compliqués où la sortie de piste est très dangereuse également. Et où il est très régulier là-bas, il est toujours dans une certaine limite. Comme il le disait, il avait une très très bonne voiture capable d'aller casser le record, donc il n'avait pas besoin d'être à 101%. Il fallait toujours rester dans les 100%, jamais dépasser. Et c'est sûr que c'est mais encore une fois, c'est un amoureux du sport auto, mais aussi un amoureux du danger, de l'adrénaline que ça procure, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier.
J'allais faire tu vas rosir, ça fait rien, le parallèle, parce que toi tu as touché à beaucoup de disciplines également, et c'est ça le plaisir. Quand on aime piloter, il faut que ce soit un engin performant, et ça aussi on le souligne une nouvelle fois, et puis se remettre en question, parce que effectivement l'aiguillon, la décharge d'adrénaline, elle vient du danger.
Il est Romain, il est encore plus à ce niveau-là, il est encore plus motivé que moi, puisque lui il donne de sa personne pour pouvoir aller rouler dans d'autres catégories.
Et son équipe privée,
c'est lui qui la paye, c'est lui qui investit là-dedans. Moi je serais pas assez passionné pour faire ça, parce que je pense qu'il faut séparer tout, le métier et le plaisir, mais lui il est à fond dedans et je le respecte beaucoup pour ça, je l'admire beaucoup pour ça.
Et on voit également Aurélien, on en parlait, et là il est au Mont Classique hein, pour piloter des engins absolument mythiques là aussi, parce que Porsche 917, je crois que même si on connaît un tout petit peu l'histoire du sport automobile, c'était une machine tellement bestiale qui a été créée par Porsche pour répondre à la réglementation donc en 1969 et pour contrer également les Ford GT40, et c'était une machine extrêmement performante, et à l'époque il fallait un courage absolument colossal pour mener ça à la limite, parce que les vitesses de pointe ça prenait déjà dans la ligne droite des Hunaudières de l'ordre de 350 km/h, donc avec des protections qui n'étaient absolument pas celles qu'elles sont aujourd'hui.
Celles d'aujourd'hui.
Ouais, exactement.
Un petit mot pour finir sur Craig Lowndes.
Voilà.
Alors, faut le prononcer. Craig Lowndes.
L-O-W-N-D-E-S, ouais.
Un Australien de 44 ans, 21 saisons en V8 supercar. C'est vraiment une star, une sommité du milieu. Et il envisage de d'arrêter ça et de se lancer dans l'enduro. Tu voulais en dire un petit mot, Jean-Luc?
Eh oui, parce que même si lui aussi est totalement méconnu en Europe, hein, il fait partie de ces pilotes qui veulent sortir de leur île continent. Et il est attiré par Le Mans, justement, parce que il rêve de marcher. Alors, c'est quand même un type qui a gagné 3 championnats en 21 participations, donc de championnat australien supercar, on l'appelle aujourd'hui supercar, avant c'était le V8 supercar. Il a remporté 6 victoires à Bathurst, et là aussi Adrien, ça te parle, c'est un circuit de folie, c'est le circuit de Mount Panorama, c'est un circuit absolument démentiel, là aussi où il y a une ambiance avec un dénivelé, enfin une montée vertigineuse et une descente encore plus vertigineuse, avec une courbe qui se passe à plus de 300, hein. Donc c'est avec des engins qui pèsent 1,6 tonne, là c'est, voilà, il faut du courage, c'est peu de le dire. Et donc 106 victoires en supercar, Craig Lowndes, on va peut-être le voir au Mans, parce que c'est là aussi un pilote qui est attiré par cette magie du Mans. Il en a lui aussi tellement entendu parler, il en a tellement rêvé, donc il va terminer cette saison pleine de supercar en Australie.
Ça veut dire que ça fait une place en V8 supercar.
Et okay. Ça veut dire que ça fait une place en V8 supercar. Tu peux prendre note, et en plus dans une super équipe, un Triple H, donc triple c'est une des meilleures équipes du championnat australien de supercars. Voilà, on a fait le tour. Aurélien, merci beaucoup
merci
pour ce Radio Paddock. Merci Adrien, on te retrouve tout à l'heure avec Lucas.